sommes ici au kilomètre 259 de notre périple le long de la Seine. 259 km depuis Source-Seine, qui est l'endroit où la Seine prend sa source. Et nous sommes ici devant le cloître de Port-Royal, sur le boulevard de Port-Royal à Paris. Nous sommes à l'extrémité du cloître, dans cette atmosphère très particulière où se combine l'héritage religieux et politique du jansénisme. C'est une doctrine extrêmement sévère qui combinait, une doctrine catholique extrêmement sévère, qui combinait le souci des pauvres, la sortie du monde, une vie extrêmement ascétique, et qui la combinait avec une idée extrêmement pessimiste de la nature humaine, fondée sur la prédestination absolue, le petit nombre des élus, le fait que la massa damnata, la masse des damnés, était beaucoup plus importante que la masse des sauvés. Et cette hérésie, pour cette raison, qui ressemblait à certaines hérésies protestantes, a été condamnée par le siège apostolique et donc a été persécutée par le roi de France, qui était, lui, plutôt conseillé par des jésuites, qui ont été les grands adversaires du jansénisme. Et on sait que c'est contre eux que Pascal a écrit Les Provinciales. Et donc ici, dans ce lieu, à Port-Royal, à Port-Royal de la ville, on retrouve cette atmosphère du jansénisme, et on retrouve aussi, tout autour de cette atmosphère du jansénisme, l'atmosphère de l'assistance publique de Paris, avec ses bâtiments au sein desquels l'ancien cloître est désormais enchâssé. Et c'est à l'intérieur de cet endroit que je voudrais évoquer avec vous deux problématiques, qui sont la conversion d'une part, et d'autre part, de manière peut-être un peu plus surprenante, s'agissant de Port-Royal, le féminisme. La conversion, je voulais dire que je ne la vois pas comme un mécanisme spécialement religieux, elle peut être religieuse bien sûr, mais c'est plutôt le mouvement par lequel on veut se retrouver et échapper à ce que Proust appelait la connaissance conventionnelle, qui nous empêche d'accéder à la vie véritable. Au fond, cette conversion peut être conversion à une foi, elle peut être conversion à la littérature, elle peut être conversion à l'art, et elle peut être aussi une sorte de conversion négative, comme celle de Rimbaud, Cessant d'écrire, ou Thomas Edward Lawrence cherchant dans une destinée de soldat de seconde classe, une sorte de réparation des fautes qu'il pensait avoir commises dans sa quête du royaume arabe au cours de la Première Guerre mondiale. Et à propos de conversion, je vous parlerai d'un esprit qui était l'esprit le plus brillant de ce temps, un esprit du XVIIe, qui est à peu près oublié aujourd'hui, et qui s'appelle Antoine Lemaître de Sacy. Il appartenait à une grande famille parlementaire et janséniste, et c'était un homme absolument exceptionnel. Vous pouvez imaginer quelque chose qui serait à la fois Dupont-Moretti, Giscard, jeune ministre et Bill Gates. Une des grandes gloires de son temps. Il commence à plaider à 20 ans en 1629 et il déclasse immédiatement au Parlement de Paris tous ses concurrents. On peut encore trouver ses plaidoiries et l'une des plus belles. Et pour une femme qu'on veut forcer à revenir à tort au domicile conjugal, Richelieu veut en faire un ministre. Il se refuse et il est clair qu'il commence à s'ennuyer aux audiences et que même il s'y endort. Racine écrit cette phrase magnifique « Le vent de Dieu ne fit que passer et en lui tous les cèdres du Liban tombèrent ». En 1637, il quitte définitivement le palais aux vacances judiciaires et il ne reviendra pas. Personne ne sait où il se trouve et c'est l'abbé de Saint-Cyran, l'un des maîtres du jansénisme, qui lui a trouvé une petite chambre exactement ici, plaqué de sapin parce que l'atmosphère était humide, dans le cloître de Port-Royal où nous sommes. Un certain nombre de gens commencent à penser qu'il veut rentrer dans les ordres en fait pour poursuivre une destinée ambitieuse, alors qu'il aurait pu devenir ministre pour devenir évêque, et il écrit alors une lettre à Séguier dans laquelle il a cette phrase magnifique « Je ne veux pas changer d'ambition, je veux n'en plus avoir du tout ». On le presse de devenir chartreux, il y a la chartreuse qui est juste à côté, la chartreuse du Luxembourg, il s'y refuse, il ne veut pas devenir prêtre, et il devient solitaire à Port-Royal des Champs. Il est à part, il ne parle presque plus à personne, il écrit des livres absolument magnifiques. Le chancelier Séguier, qui le hait, lui refuse le privilège d'impression. Il s'en moque. Il conservait, écrit Racine, je ne sais quoi d'irrégulier, qui était sa marque. Et je ne connais pas de plus beau compliment. Il a renoncé absolument à tout. Et pourtant, un jour, les religieuses lui demandent de plaider. Il sort du cloître de Port-Royal des Champs. Et c'est l'éblouissement de son ancien talent qui revient. Une plaidoirie magnifique sur un objet tout à fait mineur, puis il retourne au silence. Il avait dit à Racine, le métier d'avocat est le plus beau métier du monde, lorsqu'on n'est pas solitaire. La persécution des jansénistes par le pouvoir royal n'a jamais cessé depuis 1650. Et c'est le 21 août 1664 que l'archevêque de Paris, qui s'appelait Péréfix, se rend au cloître et sermonne les religieuses de Port-Royal en les sommant d'obéir au roi, au pape et à l'Église. Il leur recommande de signer ce qu'on appelle le formulaire par lequel elles abjurent l'hérésie. Et au fond, le monde épiscopal de l'époque, comme le monde épiscopal d'aujourd'hui, est évidemment un monde d'hommes. Et ce qui se passe est tout à fait surprenant, c'est que ces religieuses, et notamment la mère Angélique, qui est la principale d'entre elles, vont opposer une détermination que on n'ose presque pas qualifier de masculine, en tout cas une détermination féminine face à l'oppression de ce pouvoir qu'on dirait aujourd'hui patriarcal, qui est absolument radical et qui paradoxalement arrive à faire passer les hommes pour ce qu'on appelait à l'époque des femmelettes. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque alors que les religieuses restent fortes et dignes, Péréfixe trépigne, pleure, et pour finir, dans un saignement qui rappelle le saignement menstruel, dit Racine, saigne face à ces religieuses, de telle sorte qu'on est obligé d'emporter trois serviettes mouillées de son sang. Quand toute la force est d'un côté, écrit le grand Nicole, et qu'il n'y a que la raison et l'innocence de l'autre, il semble qu'il n'y ait rien à attendre de la justice des hommes. La fin de Port-Royal, c'est celle de Racine, c'est celle de Pascal, c'est celle des religieuses. Ils seront persécutés de la manière la plus radicale, puisque en 1711, le roi fera ouvrir, violer les sépultures, disperser les ossements, et Sainte-Beuve y voyait la préfiguration du viol des ossements des rois à Saint-Denis en 1793, et d'autres auteurs plus tardifs y ont vu la préfiguration des horreurs totalitaires du XXe siècle. Et puisque nous avons souvent parlé en montant la scène du surréalisme, je voudrais raconter un épisode étonnant qui est assez peu connu, c'est que André Breton plus tard se réclamera des jansénistes persécutés. En 1941, pendant la guerre, il fait un poème objet qui s'appelle « Portrait de l'acteur André Breton dans son rôle mémorable de l'an de grâce 1713 ». Et on y lit simplement les mots « Je te vois, pape Clément XI, vieux chien », puis ceci qui nous frappe à l'endroit où nous sommes, Port-Royal détruite, mais invulnérable.